ce que disait aussi Bruce Lee, le plus dur, c'est de soustraire en fait. C'est pas de faire quelque chose de parfait, de très complexe. Le plus dur, c'est de faire quelque chose de simple.
Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Fabrice Giroulet, qui est psychiatre. Et on va parler de l'alliance thérapeutique. Et pour commencer, je te propose de te présenter.
Mais déjà, bonjour à toutes et à tous. À tous ceux qui vont écouter cet épisode. Donc, comme l'a dit très justement Clément, donc je m'appelle Fabrice Giroulet et je suis donc psychiatre, psychothérapeute et j'exerce actuellement en Suisse. J'ai fait la formation de deux côtés de la frontière, si on peut dire ça comme ça. J'ai fait les études donc, de médecine théorique en France et puis la très grande majorité de mon internat en Suisse. Et j'ai fini donc internat en Suisse avec un diplôme suisse.
Mais tu as de nombreuses activités et c'est ça que je trouvais assez extraordinaire, c'est que tu es psychiatre mais aussi entrepreneur.
Oui.
Tu peux nous parler justement un petit peu de ces différentes activités.
On va commencer par le podcast justement puisqu'on est dans le thème. Donc, on est confrères de podcast au final. Donc oui, avec mon associé Clément, encore un Clément, on tient un podcast pour les soignants, cette fois-ci, donc il s'appelle MeditsRuh, MeditsRuh. Et l'idée, en fait, c'est de mettre en avant les soignants avec des parcours, on va dire, multicasquettes, c'est-à-dire qu'ils soient à la fois soignants et sportifs professionnels, investisseurs, artistes, je ne sais quoi d'autre, voilà, vraiment multicasquettes, chef d'entreprise, entrepreneur, donc du coup. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant, comme quoi on peut être soignant et on peut aussi faire autre chose, pour impacter les autres d'une autre manière et que c'est pas forcément incompatible. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre podcast. Il y a des soignants qui écoutent, il y a aussi des non-soignants. On le voit dans les statistiques et ça nous fait très plaisir. Et c'est toujours un podcast qui est en croissance et on a un rythme de sortie d'un épisode toutes les 3 semaines qui traite de divers sujets. On a des hommes, des femmes, mais c'est des formats plutôt longs qui durent minimum 2 heures et permettent vraiment de rentrer dans un sujet, l'approfondir. Et c'est comme ce qu'on est en train de faire là, en fait. C'est une conversation plutôt détendue. C'est pas une interview. Il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui apprécient pas, mais de ce qu'on voit des statistiques, il y a un bon taux de complétion. Donc on est assez content de pouvoir transmettre des choses aux gens et des messages qu'on a jusqu'à présent. Les gens sont très contents et ben, nous, on s'attendait pas à autant. C'est très, très gratifiant et ça nous fait vraiment plaisir de délivrer ça pour les gens. Et comme tu l'as dit, après, on s'occupe aussi avec Clément d'une société plus tournée vers les médecins qui les forment, en fait, à la gestion des finances personnelles et professionnelles. C'est un truc qu'on gère pas du tout, en fait, en sortie d'études. On n'est pas du tout formé à ça. Et nous, c'est un sujet qui nous passionne, en fait, depuis plus de 10 ans, depuis les bancs de la fac. Et donc là, voilà, c'est la concrétisation de 10 ans d'apprentissage, 10 ans de pratique. Et on essaye de transmettre ça en petits groupes à nos collègues lors d'événements qui sont sur 2 jours. Et puis les gens sont assez satisfaits. On est très contents de pouvoir transmettre ça. Et nous, ça nous fait plaisir. Parce que vraiment, c'est de pouvoir transmettre ça, un truc qui a l'air nébuleux, qui a l'air compliqué, mais qui, en fait, si bien expliqué, est très simple. En tout cas, c'est les retours qu'on a et on est très, très satisfaits de ça. Donc, notre manière encore d'impacter les autres directement. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit directement nos produits chez les gens, à la différence du soin ou notamment en psychiatrie. C'est un peu plus long, ça se fait sur la durée. Là, c'est une autre manière de voir qu'on peut faire du bien aux gens.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que dans le soin, la psychiatrie, elle fait du temps long. Et c'est vrai que quand t'es chirurgien et une opération, c'est le côté où ton patient, il a tout de suite te dire. Alors que le psychiatre, on lui dit beaucoup moins merci. Ouais. Et ça, c'est un sujet de fond qui n'est pas si traité que ça et qui rejoint un petit peu l'alliance thérapeutique.
C'est exact, c'est ce que j'allais dire.
Comment toi déjà tu définis ça, l'alliance thérapeutique?
Alors là, tu as différentes définitions. Tu as la définition académique, tu as différentes définitions, mais si je me base moi sur la définition qu'on m'a apprise et que je pratique, c'est vraiment le contact que tu vas créer avec la personne. C'est vraiment la relation de confiance que tu vas créer avec la personne-là. Et c'est aussi l'engagement. Alors, j'inclus l'engagement de la personne dans la thérapie, en fait. Donc, l'alliance thérapeutique, c'est vraiment quelque chose qui est bilatéral. La relation, elle est jamais symétrique entre un thérapeute et un patient. Il y a toujours une asymétrie. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que cette asymétrie ne soit pas trop grande, pas dans un mode, on va dire, professeur-élève ou dans un mode paternaliste. Il y a toujours une asymétrie, elle est nécessaire et c'est normal, entre guillemets, si je me base sur historique, en fait, scientifique de la profession, on apporte quelque chose, une connaissance. Donc, c'est normal que ce soit asymétrique, mais il ne faut pas qu'il y ait un gouffre non plus béant entre les deux. Pour rendre responsable, en fait, la personne aussi de sa prise en charge et pas créer un mode, on va dire, de dépendance dans la relation. Donc, c'est vraiment une approche collaborative. Et c'est comme ça que j'ai fini l'alliance thérapeutique.
Et c'est vrai que tu parles de collaboration, et pour ça aussi qu'on en parle, si on parle du polaire, c'est que c'est pas juste au psychiatre de faire son travail. C'est aussi à nous, en tant que patient, de faire un pas et de permettre à cette alliance de fonctionner. Pourquoi est-ce que justement c'est essentiel de créer cette alliance, et est-ce que tu as des conseils même à donner en tant que patient?
Ouais, juste quand tu parlais du temps long, justement, et d'alliance thérapeutique, et ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, mal intégré par les gens, et c'est normal. Parce qu'on n'est pas formé, il n'y a pas d'information. On fait souvent le parallèle, en fait, entre la santé somatique et mentale, la santé psychique. Et le truc, c'est que, comme tu l'as dit, généralement, dans la santé somatique, les choses vont assez vite. C'est de l'instantané. J'ai des symptômes, j'ai un petit mal, je vais voir mon médecin, il me traite, et généralement, ça passe, dans la très grande majorité des cas. Et on n'a pas cette notion du temps long, en fait. Et en psychiatrie, et c'est ça qui est difficile pour les patients à accepter, et ça prend du temps, c'est qu'on est sur du temps long, comme tu l'as dit, et on ne peut pas forcément avoir les mêmes attentes en disant que, par exemple, je souffre d'un trouble bipolaire et ça va durer 2 mois, 3 mois, ce n'est pas du tout ça. On est vraiment sur plusieurs mois, même plusieurs années, on va dire, d'apprivoiser sa maladie, d'apprivoiser ce qui est possible de faire. Et le lien avec ce que vous faites avec Hopstead, moi, je trouve que c'est génial. D'ailleurs, je redirige pas mal le patient pour le Notion, qui est plein de ressources avec plein de livres. Et c'est un outil, on va dire, d'information thérapeutique qui est extrêmement puissant. Et certains patients m'ont dit qu'ils trouvaient ça très bien pour justement pour s'informer sur la maladie. Donc, en fait, oui, c'est du temps long et l'alliance est nécessaire. Elle doit se construire avec le temps parce qu'on va en avoir pour des années, si je peux dire. Voilà. Donc, si à la base l'alliance est mauvaise, si les enjeux ne sont pas compris, ça ne peut pas marcher. Donc, après, dans l'alliance, on est tous différents, on a tous une manière différente d'aborder la relation thérapeutique. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs professionnels en santé mentale. Il ne faut pas s'arrêter à un psychologue ou un psychiatre. Si jamais ça ne convient pas, il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs. On le prend pas mal du tout. On a chacun une approche, une singularité. Et heureusement, parce que chaque patient, chaque personne a son fonctionnement et a sa pathologie. Une pathologie est totalement différente d'une personne à une autre parce que le vécu est différent. Et justement, ce vécu de l'immédiateté, je pense que ça, c'est un combat quotidien que j'ai avec mes patients pour leur faire comprendre en douceur que malheureusement, ça va prendre du temps et qu'on ne peut pas avoir des attentes, on va dire, de rapidité par rapport à d'autres maladies. Mais c'est un combat aussi pour nous. Thérapeutes, on aimerait que tout le monde aille vite mieux et c'est aussi une lutte pour nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on discute souvent entre nous et qu'on se fait superviser. Et c'est conseillé de se faire superviser pour justement prendre du recul et nous dire que non, c'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est difficile, aussi bien donc pour le thérapeute que pour le patient, justement cette notion du temps long en santé mentale. Voilà ce que je peux te dire sur ce point-là.
Comment est-ce qu'on peut savoir en tant que patient si justement l'alliance thérapeutique fonctionne et s'il faut changer ou pas de praticien? Je te donne un exemple personnel où lorsque j'ai été diagnostiqué, en fait, le psychiatre qui m'a diagnostiqué, j'ai travaillé avec lui pendant un peu plus d'un an et je sentais que ça ne marchait pas totalement, mais je n'osais pas en changer. Et quel conseil tu pourrais donner là-dessus?
Ce qu'on nous dit en psychiatrie, en enseignement, et je pense que c'est assez vrai, c'est que tout se joue dans les 30 premières secondes. C'est-à-dire, ton intuition prend le dessus et tu sais dans les 30 premières secondes si ça va matcher ou pas. Après, bien sûr, tu peux prendre un peu plus de temps pour évaluer, mais si la personne ne se sent pas à l'aise, je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas de honte à dire je pense que je vais chercher quelqu'un d'autre. L'important, c'est d'aller en thérapie en étant satisfait d'y aller, en étant content d'y aller, en se disant je vais avancer dans mon combat. Je vais apprendre des nouvelles choses et j'y vais pour me faire du bien. Si jamais ça devient quelque chose de routinier, de quelque chose, on va dire, de contraint, je pense que soit ça peut être dû au thérapeute, soit ça peut être dû juste à la personne à qui on a vu sa maladie, ça peut aussi être dû à ça. Mais si vous pensez que c'est lié au thérapeute, il n'y a pas de honte à pouvoir changer.
Et
Mais
c'est
faire
important que
confiance,
tu...
faire confiance justement à l'intuition et à comment ça se passe dans les premiers instants.
Et c'est
Mais
un...
désolé de te couper, mais j'incite parce que on a tendance à croire, mais ça, c'est une croyance, une fausse croyance à la fois du côté patient et du côté soignant, que les patients attendent tous et toutes un accueil chaleureux, un accueil avec le sourire, un accueil, on va dire, bienveillant, venez, mettez-vous là, ça va bien aller. En fait, non. Et ça, je l'ai vu de mes yeux et j'ai pu le pratiquer dans différents lieux de stage. Il y a des patients, justement, qui vont préférer, on va dire, les thérapeutes un peu plus, entre guillemets, direct, cash, frontal, confrontant. Un peu plus froid. Ça dépend vraiment des personnalités de chacun. Non, tout le monde ne cherche pas le thérapeute qui va venir vous coucouner, entre guillemets. Là, je vais déjà loin en disant coucouner parce que c'est pas ce qu'on essaye de faire. Mais il y a certains patients qui ont besoin de ce ressenti-là plutôt, et d'autres au contraire qui le fuient, ce ressenti-là par rapport à leur vécu. Donc, c'est contre-intuitif de dire que tout le monde cherche, on va dire, dans la perception du cocooning, entre guillemets, et c'est pas forcément ça qu'on fait en thérapie. On fait pas du cocooning, c'est pas de la thérapie. En tout cas, c'est pas de la thérapie, on va dire, la santé mentale comme on le pratique en psychiatrie et psychothérapie. Pour le cocooning, il y a d'autres choses qui marchent très bien en paramédical, mais je parle en thérapie, psychothérapie, c'est pas le sujet. Donc, je dis pas qu'on est tous froids ou confrontants, je dis qu'il y a certaines limites et on est là pour accompagner la personne de la meilleure des manières possibles, sans tomber dans un truc, on va dire, on est votre maman, on est votre papa, ça va bien se passer. Non, c'est pas ça. On est plus dans une attitude de responsabilisation, on va dire, accompagnante et bienveillant avec le patient. Plutôt pas bienveillant, parce que ce terme, encore, on pourrait en débattre, comme j'en ai débattu dans mon podcast avec des invités, plutôt de non-malveillance. Je préfère ce terme. Voilà. Qui est la bienveillance? On pourrait argumenter des heures et des heures sur la perception de la bienveillance, mais vraiment sur primum non nocere. Donc, la devise du médecin, vraiment, sur ce principe éthique, donc de non-malveillance. Voilà.
Je mettrai le lien de cet épisode du podcast, ça peut être intéressant pour si aller le découvrir. Et il y a un point aussi que tu expliques, c'est on parle beaucoup côté patient, mais est-ce que en tant que professionnel de santé, ça nous arrive, pas professionnel de santé, mais moi je suis de la période un peu différente, est-ce que ça vous arrive de se dire, c'est compliqué avec ce patient, j'ai du mal à faire mon alliance thérapeutique. Et puis, c'est un droit en tant que professionnel de santé. Je suis curieux du sujet.
Mais quand tu sens quand tu sens que l'alliance thérapeutique est difficile avec le patient, c'est une question délicate, mais déjà, tu en parles à un collègue pour avoir son avis, pour déposer justement ton ressenti sur cette situation. Et si vraiment tu as des contre-attitudes, alors il y a deux choses. Tu peux sentir une mauvaise alliance, mais on peut pas dire que tu puisses dire au patient, je sens que ça va pas entre nous, aller voir quelqu'un d'autre. Ça, tu peux pas trop dire ça, c'est pas déontologique. Tu es là pour recevoir, en fait, on va dire, une demande. Tu reçois une demande et tu réponds à un besoin de soins. Si pour la personne, ça va très bien, si pour toi, ça va pas, ben, on va dire, tu travailles sur tes propres problèmes et tu fais avec. Par contre, il y a autre chose. C'est si tu commences à développer des contre-attitudes. C'est-à-dire si tu vois qu'avec ton patient, tu deviens justement malveillant. On parlait de la non-malveillance. Là, oui, ça fait du sens de dire, écoutez, je pense qu'il vaut mieux que vous allez voir un autre professionnel. Mais vraiment, je pense uniquement dans cette optique-là, de dire, ah, je vais être maltraitant avec mon patient parce que. Donc là, oui, je pense que ça fait du sens. Mais sinon, non. Si tu sens que tu as du mal à développer une alliance avec ce patient, mais si pour la personne en face, ça va très bien, je pense qu'il faut continuer. Mais déjà, si tu sens que toi, tu as des difficultés à créer une alliance, tu peux demander à la personne comment ça va, nous deux, comment vous pensez qu'il y a notre relation, et peut-être que de là peut émerger justement une problématique que la personne ose dire, en fait, au thérapeute, non, je pense qu'en fait c'est un peu compliqué quand je viens, tout ça. Donc il vaut mieux crever l'abcès, discuter sans forcément dire ce qu'on ressent directement, hein, mais juste poser des questions en disant comment vous trouvez que ça va entre nous deux, est-ce que ça vous convient la manière dont on travaille, etc. Je pense que c'est plutôt cette démarche-là qu'il faut adopter, donc une démarche socratique plutôt que de poser le cadre et dire non, je suis thérapeute, non, j'estime que ça va pas. Donc, non, on ne comprend pas. Ça, c'est pas déontologique et c'est pas dans la démarche de soins.
Est-ce que, en tant que patient, cette alliance thérapeutique, notamment, enfin, déterminer les objectifs qu'on va avoir, le type, justement, d'interaction, comme tu l'expliquais assez bien, certains vont vouloir plus de chaleur, le tutoiement, le vouvoiement. Comment est-ce qu'on peut travailler en amont, en tant que patient?
Je pense que c'est assez difficile parce que c'est l'alliance née dans l'interaction humaine. Donc, il faut trouver quelqu'un qui puisse matcher avec soi. Mais les thérapeutes sont assez flexibles, hein. Justement, c'est notre métier. Donc, on n'est pas, on prend pas uniquement les gens qui nous ressemblent en thérapie. C'est ça que je veux dire. On a un éventail assez large. En fait, on sait s'adapter. Donc, c'est pas un problème. Mais non, je dirais que c'est au contraire. Je pense qu'il faut laisser faire les choses. Et puis, c'est de là où les choses sont le plus saines, en fait. Plutôt que de tout calculer, de tout préparer, de faire en sorte que ça marche. Je pense que déjà, si on dit « je vais faire en sorte que ça marche avec mon thérapeute », c'est qu'il y a un problème.
Et quel est l'impact de l'alliance thérapeutique sur justement le succès d'une thérapie?
Alors ça a été étudié. Ça fait notamment partie de mon mémoire de fin d'études. Donc oui, je peux te dire que là, en fait, le succès d'une thérapie, la conclusion, c'est qu'elle repose sur trois choses. Et c'est peut-être contre-intuitif. Donc les études montrent que bien sûr, dans ces trois choses-là, il y a l'alliance thérapeutique. Sans ça, ça ne marche pas. Les deux autres choses, ce sont les compétences du thérapeute, donc la technicité du thérapeute, et la troisième, ce sont les facteurs externes. Et c'est ça qui peut être contre-intuitif, parce que selon les études, les facteurs externes occupent une part un peu plus importante que les deux autres facteurs qui sont l'alliance et la technique du thérapeute. Donc en fait, c'est un triangle, c'est un triptyque, et si tu retires une de ces parties de ce triptyque, ça ne marche pas. Ça, c'est une étude documentée qui le montre. Mais l'alliance thérapeutique, en incluant l'engagement du patient dans sa thérapie, j'incite, parce que selon les études, tu as différentes définitions de l'alliance thérapeutique. Si tu, la relation de la thérapeutique, si tu enlèves en fait l'engagement, certaines études montrent que l'alliance n'est pas un facteur de succès. Mais si par contre tu intègres l'engagement, qui pour moi, ça fait du sens en fait d'intégrer l'engagement, oui, l'alliance thérapeutique est un facteur de succès de la thérapie. Et il y a plein d'études qui ont vu ça, il y en a plein qui disent non, l'alliance n'est pas très important, il faut plus de la technique. Non, mais dans ce que j'ai lu et dans ce que j'ai fait vraiment, et je suis assez d'accord et je le vois en pratique. Hein. Je le vois en pratique, c'est vraiment les trois qui sont importants pour une réussite d'une thérapie.
Et est-ce que tu peux développer justement ces trois facteurs et notamment le terme compétence que...
Oui, tout à fait.
C'est pas vraiment la question, mais comment est-ce qu'on peut savoir?
Alors, la compétence, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça a été étudié et pour te donner une idée, par exemple, on prend n'importe qui, un être humain, et on le fait travailler en thérapie avec, on va dire, une personne souffrante en santé mentale. Les études ont montré qu'au bout d'un an, il n'y a pas de différence significative entre la personne qui est formée et la personne qui n'est pas formée. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un an de thérapie, l'effet est le même. Néanmoins, quand tu vas plus loin, quand tu pousses l'étude plusieurs années plus tard, quand tu pousses l'étude dans les années suivantes, là, il y a une différence significative dans les symptômes, dans le maintien de la thérapie, dans tous les autres paramètres mesurables, hein, objectivement par des échelles, parce qu'on essaye d'objectiver ça par des échelles quand on fait des études. Donc oui, là, il y a une différence significative en faveur des personnes formées. Parce que la thérapie, en fait, c'est une manière en fait, d'aborder les choses. Il faut être formé. Ce n'est pas juste une discussion entre une personne. On paraît, et c'est ça. Et j'ai envie de dire, quand vous avez l'impression qu'une discussion avec votre thérapeute, c'est que le thérapeute est bien formé, et fait du bon boulot. Quand vous ne sentez pas le côté scolaire, justement, c'est que les choses sont rendues faciles. Et ce qui paraît facile, en fait, c'est très difficile à faire. Prends l'exemple de Lionel Messi. Vous voyez Lionel Messi qui joue au foot. Vous avez l'impression que tout est facile. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est extrêmement difficile. C'est ce que dit aussi Bruce Lee. Le plus dur, c'est de soustraire, en fait. C'est pas de faire quelque chose de parfait, de très complexe. Le plus dur, c'est de faire quelque chose de simple. Ce que disait Bruce Lee, et c'est vrai, on le voit partout. Donc, si vous avez l'impression que le thérapeute est assez aisé, vous avez l'impression que c'est une discussion qui n'est pas trop scolaire, c'est parce qu'on est formé, en fait, à ça. Sans que ça tombe dans des balivernes, dans des discussions de café. Tu vois ce que je veux te dire? Mais les études ont montré ça. Donc, oui, la compétence, une manière de discuter, une manière d'aborder les choses, et surtout, la formation permet de détecter, en fait, ce qu'on pourrait appeler dans le monde des startups, les signaux faibles et les signes d'alarme quand quelqu'un dit quelque chose. C'est-à-dire, la personne tend des perches, en fait, et on est formé, entre guillemets, pour reconnaître ces perches. Ça passe par du non-verbal, ça passe par une manière de dire les choses, ça passe par des symptômes, hein, parfois, des symptômes qu'on voyait que le patient est quelque chose qui a changé. En tant que professionnel, vous pouvez le voir. Donc oui, la formation est importante et c'est nécessaire pour mener à bien du soin. Ça reste du soin. Donc il y a des spécificités dans l'espèce humaine et il y a des formations pour ça. Donc c'est pour ça que c'est super important pour la réussite d'une thérapie. Parce que sinon, vous tournez en rond. En fait. Une personne qui n'est pas formée, c'est ce que montraient les études, c'est que ça tourne en rond. Parce qu'il n'y a pas justement cette vision de la psychologie humaine, de la santé mentale en fait, qui a été étudiée depuis des années et des années. Donc oui, il y a des spécificités, il y a des choses à savoir.
Et justement, là-dessus, tu parles de la longueur d'une thérapie. Et tu as donné quelque chose qui m'a impressionné, c'est que, en fait, la différence se fait vraiment au bout de plusieurs potentiellement.
Après un an, la différence se fait après un an.
C'est ça. Et donc, c'est un peu ce que je déduis. Combien de temps, selon toi, il faut rester avec le même professionnel de santé? Parce que selon l'endroit où on est soigné, il peut y avoir des changements justement de psychothèque qui peuvent être assez récents. Je pense notamment en France au CMP, donc au Centre médico-psychosociaux, où généralement pour les 6 mois, on se penche de psychiatre.
Ouais.
Et quel est l'impact justement de la durée avec laquelle on reste avec le même médecin et qu'est-ce que tu recommandes là-dessus?
Alors ça, c'est une problématique. C'est que c'est vrai, l'idéal, c'est pendant au moins un bon moment avoir le même thérapeute. Je n'ai pas de délai à te donner, mais c'est vrai qu'un changement itératif provoque chez les gens une sensation, on va dire, de mal-être, en fait, d'agacement même. même de colère. Et c'est tout à fait normal parce qu'on développe justement l'alliance thérapeutique, elle se développe, ça prend du temps, hein. Donc tu vois, tu parlais de 6 mois et il se peut qu'il faille 6 mois pour développer une alliance. Donc tu commences à développer une alliance, tu commences à te sentir en confiance avec la personne avec qui tu fais ta thérapie, puis d'un coup cette personne part. Et ça, je sais que c'est un gros problème, et moi aussi j'en ai été l'auteur malheureusement, parce que tu sais, pendant les formations, on est obligé en fait de se déplacer de lieu de formation en lieu de formation. Et ça, c'est vrai que chez les gens, c'est désagréable. Mais pour nous aussi, parce qu'on sait qu'on crée ce sentiment désagréable. Donc, j'ai pas de durée à te donner spécifiquement, ça dépend des gens. Et des gens, par exemple, en 6 mois, ça leur va très bien. J'ai déjà eu des patients sur des thérapies courtes qui ont duré 3 mois. Moi, je suis dans l'axe TCC, donc cognitif comportemental. Pour certains problèmes de phobie ou de TOC, en 3, 6 mois, on a pu faire quelque chose avec un développement d'alliance assez rapide. Et puis après, je m'en vais et puis la personne est satisfaite. Mais ça dépend des gens. Ça dépend des gens, et des gens qui ont besoin de leur thérapeute toute la vie. Il y a des gens, ça va être 1 an, et des gens, ça va être 6 mois. Donc, il n'y a pas de réponse. Je pense que c'est tant que la personne se sent bien avec la personne. Après, là aussi, c'est au professionnel de reconnaître quand est-ce qu'il est bien d'espacer les séances pour ne pas justement créer une relation de dépendance. C'est pour ça que je parlais de la formation. C'est très important de savoir reconnaître quand est-ce que c'est bon, on peut ralentir, on peut réduire la fréquence des suivis et passer par exemple un suivi tous les 3 mois ou tous les 4 mois ou tous les ans. Voilà, ça se fait. Hein. Et voilà, pour ça, il faut être formé.
C'est un sujet qui est pas simple parce que les formations sont diverses selon les pays, selon même l'âge à laquelle on a eu la formation. Je vois d'ailleurs au niveau générationnel, j'ai pas l'impression que la relation patient professionnel de santé est la même, et notamment tu as beaucoup parlé du fait d'être un peu au même niveau, et j'ai le sentiment, et à ton avis, que les psychiatres qui ont plutôt la soixantaine, il y a un peu plus un fossé entre les deux. Comment tu vois les choses là-dessus?
Oui, c'est une vraie remarque. Je vais te prendre un exemple très récent, quelques mois. C'est que j'ai une patiente qui avait justement un thérapeute plus âgé et sa famille, une jeune patiente, hein, tout juste majeure, donc accompagnée par sa famille, donc par ses parents. Et c'est vrai que l'une des remarques des parents, c'était de se dire peut-être qu'elle aurait besoin d'un thérapeute plus jeune. Justement parce qu'il y avait un fossé générationnel entre le professionnel et la personne. Parce que ça aussi, c'est un point dont on n'a pas parlé, mais qui est très important et ça permet de faire le lien. C'est que pour comprendre les gens, il faut s'intéresser aux gens. Il faut s'intéresser à ce qu'ils vivent, quels sont leurs métiers, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, c'est quoi l'environnement familial. Donc ça, c'est toutes les premières phases d'anamnèse. C'est pour ça qu'on pose ces questions au tout début. On veut en savoir le plus possible sur la vie de la personne pour justement comprendre son fonctionnement dans son système. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que comprendre les codes d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui créent beaucoup de problèmes au niveau de santé mentale. On a des interactions différentes entre les jeunes qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Et donc, je pense que comprendre la génération, comment elle vit, c'est important justement pour le meilleur pour son patient. Mais ça, il faut s'y intéresser. Si jamais la personne ne s'y intéresse pas et qu'elle reste sur ses acquis de fonctionnement d'il y a 30 ans en arrière, ça va moins bien marcher. Et t'es comme moi, hein, je peux difficilement comprendre, mais je m'y intéresse, le fonctionnement, ça marche aussi dans l'autre sens. Je reste un jeune thérapeute. M'intéresser au fonctionnement d'il y a 30 ans, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Et c'est vrai que peut-être qu'une personne âgée va préférer avoir un thérapeute âgé. Donc, c'est dans les deux sens. Donc, oui, il peut y avoir ce souci de perception d'âge, mais voilà, il y a de tout. Il y a des gens plus ou moins intéressés, mais même à mon âge, hein, il y a des gens plus ou moins intéressés, comme à 60 ans. Il y a des gens, je sais, je connais des thérapeutes qui sont proches de la retraite, qui sont très informés sur le fonctionnement des jeunes aujourd'hui, hein. Le courant passe bien. Donc, une vraie question, ça, c'est. Ça peut être une problématique, du point de vue de la personne.
J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti.
T'as un point que t'as expliqué dans l'alliance thérapeutique, c'est l'engagement du patient. Un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on a besoin, j'ai l'impression, d'avoir envie et de comprendre la nécessité d'être accompagné lorsqu'on est une personne bipolaire.
Ça, c'est dur.
Et c'est un sujet hyper important pour nous. On voit très bien qu'une personne qui comprend, qui accepte, qui a envie de se faire accompagner, les résultats ne sont pas les mêmes parce qu'on est capable de se remettre en cause et aussi d'accepter que, par exemple, le fait de boire beaucoup d'alcool pas toujours efficace. Et comment est-ce que tu fais pour faciliter l'engagement du patient lorsque tu es justement dans la construction de cette alliance?
C'est très difficile parce que l'engagement, tu ne peux pas l'induire en fait. Tu peux donner des insights au patient, mais l'induire directement, tu ne peux pas. C'est-à-dire, tu vas essayer d'expliquer, d'éduquer, de montrer hein, parfois que en fait, les études montrent que les gens engagés se sentent mieux, mais ça, il faut que la personne ait un assez bon insight sur soi, une auto-observation de se dire, OK, peut-être que si je m'engage, ça va aller mieux. Mais après, comme tu dis, l'engagement passe par une phase d'acceptation. Si tu n'as pas cette phase d'acceptation, c'est difficile de s'engager en thérapie. C'est quelqu'un qui vient en thérapie sans objectif et qui n'accepte pas de venir en thérapie parce qu'il dit « on m'a dit de venir », typiquement, hein. « on m'a dit de venir parce que j'étais dépressif »,« on m'a dit de venir parce que j'étais anxieux », »,« on m'a dit de venir parce que j'étais colérique ». Il n'y a pas d'acceptation, justement, de cette condition. Je suis colérique, je suis peut-être, je souffre peut-être de dépression. Donc, c'est difficile. Donc, il faut que la personne ait un micron accepté ce qui lui arrive, mais c'est difficile. Hein. Ça, c'est un enjeu, mais on accompagne les gens, ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que débuter une thérapie stricto sensu, hein, avec quelqu'un qui n'a pas accepté, on va dire, ce qui lui arrive, ça reste une maladie, mais c'est difficilement plus acceptable parce que c'est sur du temps long et on le voit pas. C'est quelque chose d'invisible. C'est pas comme une plaie, c'est pas comme une fracture, c'est dans la tête et c'est pas visible, on va dire, au premier abord. Donc non, il faut laisser le temps à la personne et on l'aide à accepter ça, on l'accompagne avant de démarrer vraiment quelque chose de stricto sensu. Donc oui, l'engagement passe quand même par une phase d'acceptation. En tout cas, toutes les personnes qui étaient engagées, que j'ai vues dans mon expérience, elles avaient accepté une grande partie de ce qui leur arrivait. Pas forcément tout. Par exemple, tu disais, ça c'est un très bon exemple. Bon, l'alcool, il y a certains médicaments, certaines conditions où on sait que ça peut faire, on va dire, refaire flamber certains symptômes. Et ça, OK, j'accepte. Par exemple, je souffre d'un trouble bipolaire. J'ai accepté qu'il fallait prendre une médication toute ma vie pour ma qualité de vie, pour travailler, pour avoir une vie familiale, pour avoir une vie sociale. Mais c'est vrai que l'alcool me limitait parce que ça risque de faire quelque chose, de perturber mes médicaments. J'ai un peu plus de mal. Mais la personne est engagée en thérapie parce qu'elle a compris en fait les enjeux. Donc oui, tous les gens que j'ai vus avaient accepté quoi, un minima ce qui leur arrivait. Donc oui, ça passe par une acceptation. Mais il n'y a pas d'alliance sans acceptation. Hein. Je veux dire, pour revenir sur la question de l'alliance, la personne, elle vient pour venir, et puis voilà, quoi.
Et pour l'engagement, il y a même un pas de la rédance, parce que c'est quelque chose qu'on essaie de faire, dans le sens où on peut, en tant que nous-mêmes, d'être une personne concernée, dire des choses via un ressenti, s'exprimer un petit peu différemment, et j'essaie de travailler là-dessus, pour essayer d'améliorer justement cet engagement. Tu as des conseils, justement, pour les personnes extérieures au psychiatre, pour faciliter cette... Je pense que c'est sûr.
Tout à fait, c'est de s'informer eux-mêmes, en fait. Et je sais qu'il y a des groupes, je sais pas si tu fais ça avec Upstage, mais il y a des groupes, justement, ce qu'on appelle pro-famille, c'est pour les profs aidants. Et je pense que c'est super important d'y participer pour comprendre, justement, comment marche la maladie et pour être soi capable de l'expliquer à la personne qui souffre. Et on va dire l'effet de masse, si je peux dire ça comme ça, le fait que plusieurs personnes vont venir avec un discours qui peut être différent, mais qui est axé sur la même compréhension de la maladie envers la personne souffrante, ça peut faciliter l'engagement et l'acceptation. Disons, les gens qui sont autour de moi veulent mon bien, ils se sont renseignés, ils essayent de m'aider. Donc voilà, il y a plein de livres hein, sur ça, sur vivre la bipolarité ou vivre les pathologies psychiques. Du point de vue des proches aidants, il y a des groupes de parole. Donc ça, c'est vrai que je ne sais pas si c'est bien référencé sur Internet, si c'est facile de trouver l'accès à ces groupes. Mais normalement, qui vous appelez, si vous faites sa démarche proactive d'appeler par exemple un CMP, le CMP, donc le centre médico-psychologique, c'est ça.
Hein, c'est ça, oui.
Votre CMP de votre secteur, hein, parce que la santé mentale est sectorisée en France. Bah, peut-être qu'ils pourront vous aider et vous dire oui, on a des groupes pour les proches aidants, ou alors au CHU, à l'hôpital, ils font des groupes pour les proches aidants. Donc, voilà. Ou alors se réunir avec ce qu'on appelle les experts patients. Ça, je sais que ça existe aussi en France, qui peuvent informer les profs. Parce que c'est eux qui ont vécu, mais ça marcherait aussi avec les familles. Ils vivent la maladie, donc qui de mieux pour en parler. Mais dans des livres, oui, ça doit exister. J'ai pas de livre là en tête qui me vient. En cherchant sur Internet, ça doit vivre en tant que proche aidant ou comment aider les gens, ça doit exister. Ouais. Ou des blogs, hein, des livres ou des blogs.
C'est un sujet qui est essentiel en fait. Nous, dans la manière dont on a théorisé ça, c'est le patient est bien sûr au cœur de son établissement et il va avoir les piliers autour de lui qui vont lui permettre de justement aller réussir ses objectifs. Les piliers sont multiples, il va y avoir le contenu, les psychiatres, le psychologue, le père aidant, les associations, les profs, et puis bien sûr, tout ce qui va être hygiène de vie, etc., etc. Et il y en a même d'autres, chacun est différent. Et maintenant, comment est-ce faciliter l'accès à tous ces piliers et comment est-ce qu'on peut permettre à la personne de les construire? Et là-dessus, nous, on a fait le choix sur les groupes de proches de plutôt travailler avec des associations, notamment parce qu'on n'a pas aujourd'hui les capacités, les compétences de faire ces groupes.
Oui. Et voilà, par exemple, dans Notion que tu fournis avec Upstage, tu pourrais référencer justement, alors c'est un travail titanesque, hein, par région, les groupes ou les associations pour les proches aidants, ouais. Sachant que les groupes pro famille, c'est encore plus complexe parce qu'il y a des groupes pro famille par thème. Troubles psychotiques, troubles de l'humeur, autisme, enfin... Donc, c'est un travail titanesque de référencement. Les organismes existent. Et le problème, c'est le référencement.
C'est une très bonne idée. J'ai fait l'exercice pour les personnes bipolaires. Mmh. Où j'ai ajouté quelques grandes associations. Hein. Par les propagnies, il y a eu ma femme aussi en France. La Maison Perchée commence à faire des choses aussi pour les proches. Mais c'est un travail que je pense que je ferai prochainement de lister les groupes pour les proches. Parce que lors des personnes qui nous écoutent, vous avez un rôle qui est essentiel. Et pour autant, vous n'êtes pas responsable de votre proche. Vous ne devez pas culpabiliser dans les cas. Maintenant, vous êtes, entre guillemets, un pilier qui est très important. Et c'est vrai que tu parlais des facteurs externes, et c'est un petit peu ça. Et justement, pour développer les facteurs externes, parce que c'était la troisième grande thème, justement, pour réussir une thérapie, tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, les facteurs externes, c'est tout ce qui arrive dans la vie, en fait, tout simplement. Voilà, un décès, quelque chose de mauvais, des choses moins drôles, une agression, un nouveau traumatisme, ce genre de choses. Bien sûr, ça impacte la thérapie. Donc, c'est vraiment tout ce qui est facteur externe. En fait, ça englobe tout ce qui est hors de la thérapie, c'est-à-dire hors compétences du soignant et technicité et hors alliance thérapeutique. C'est tout qui est vraiment externe au setting psychothérapeutique. Donc, ça peut être de tout et n'importe quoi. Hein. Vraiment, il n'y a pas de définition exacte de ça.
Et c'est vrai qu'en tant que patient, parfois, c'est un sujet qui est très compliqué de savoir comment trouver un psychiatre.
Oui. Il y a un truc qui revient, les facteurs externes aussi, il y a aussi l'évolution de la maladie. C'est vrai que moi, c'est évident, mais mon facteur externe, donc tout ce qui est externe au setting thérapeutique, il y a aussi l'évolution de la maladie. Parce que parfois, la maladie peut, justement, dans le trouble bipolaire, la maladie peut repartir en phase, on va dire, hypomaniaque ou maniaque ou dépressive, sans forcément qu'il y ait un facteur déclenchant ou un déséquilibre médicamenteux ou je ne sais quoi d'autre. Parfois, c'est l'évolution qui fait que, sans raison, on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas tout aujourd'hui, ça repart à la hausse ou à la baisse. C'est ça aussi les facteurs externes, c'est les choses qu'on ne peut pas palper. En fait, c'est vrai, il ne faut pas s'inquiéter, la maladie évolue, c'est une maladie. Mais ça, c'est difficile, encore une fois, on revient sur l'acceptation, c'est difficile à conceptualiser, que c'est quelque chose d'évolutif et qui n'est pas fixé. Mais c'est porteur d'espoir aussi, parce que c'est quelque chose qui est évolutif. Et quand on dit évolutif, ce n'est pas forcément vers le mal. On a tendance à parler de dégradation de pronostic. Donc, ces dégradations, quand on parle d'évolution, dans la tête qui nous vient, surtout en médecine, c'est évolution négative. Mais l'évolution positive existe aussi. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé.
C'est juste pour reprendre. C'était des points, je pense, importants à expliquer. Et je reviens dans le choix de son psychiatre par rapport à l'alliance thérapeutique. Quels critères tu donnerais? Donc, on a parlé de l'âge, quand même être quelque chose à prendre en compte.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres critères qui, en amont de prendre rendez-vous? Alors, bien sûr que rien ne remplacera les contacts humains, mais comment, justement, après une consultation, par exemple, se poser la question et se dire, OK, est-ce que là, j'ai l'impression que mon alliance thérapeutique fonctionne? Donc, il va y avoir le feeling, mais est-ce qu'il y a d'autres critères qu'on pourrait se poser comme question?
Alors, si tu veux dégrossir vraiment au tout début, je pourrais dire, là, ce qui me vient directement, c'est l'âge. Ça, tu peux facilement savoir, on va dire, sur les registres, ou tu peux facilement deviner quelle tranche d'âge se trouve ton thérapeute. Mais ça, c'est personnel, encore une fois. Hein. C'est personnel et ça peut être biaisé, comme je dis. Parce qu'un thérapeute âgé peut être très au courant, très facile avec justement les personnes plus jeunes. Ça, mais si jamais ça nous tient à cœur, on peut vérifier ça. C'est assez facilement vérifiable. Après, il y a aussi l'axe thérapeutique. Ça, c'est beaucoup plus vérifiable en Suisse. En France, c'est beaucoup moins vérifiable. Parfois, c'est marqué sur les plaques, hein. Mais je parle de l'axe thérapeutique. Tu sais, tu as l'axe psychodynamique, l'axe systémique et l'axe TCC. Si d'emblée, en tant que patient, tu sais que la psychodynamique / la psychanalyse, c'est pas pour toi, on ne prend pas un thérapeute comme ça, bien qu'il puisse y avoir des biais, encore une fois, parce que de ce qu'on connaît de la psychodynamique quand on est patient, sauf si on s'est beaucoup renseigné, qu'on a lu beaucoup de livres et encore, ce n'est pas vraiment ce qu'il en est. Mais ça peut être un facteur décisionnel et le biais peut entraîner justement, on est tous influencés par nos biais cognitifs, et le biais peut entraîner un frein au traitement, ce qu'on appelle une barrière au traitement, c'est comme ça qu'on dit. Donc oui, ça déjà, on peut dégrossir avec l'âge, avec le, on va dire, le mode d'entrée en thérapie, que ce soit TCC, psychanalytique ou systémique. Après, en soi, une fois que tu es sur place, il y a beaucoup de feeling, il y a beaucoup d'intuition, et l'alliance thérapeutique, elle ne se fait pas en une séance. Donc malheureusement, ou heureusement, plutôt heureusement, il faut du temps pour voir si ça va matcher ou pas. Et ça, il faut aussi l'accepter, que ça va prendre du temps. Mais après, si la personne a une très mauvaise intuition, un très mauvais feeling dès le premier rendez-vous, pas se poser de questions, hein. Faut pas se dire c'est moi le problème. Alors parfois c'est la personne le problème dans certains troubles, je pense que tu vois dans lesquels je parle, mais généralement les gens qui souffrent de ce trouble là reviennent. Mais si jamais vraiment vous sentez que ça va pas, non, faut changer, il n'y a pas d'honte. Mais généralement faut se laisser du temps. Dans la majorité des cas, l'alliance thérapeutique, ça se crée au fil des séances et ça se crée pas en une séance. D'ailleurs, il y aurait un problème si ça se crée en une séance, j'aurais tendance à dire que ce serait plus un problème. Tu aurais quelque chose derrière à aller creuser du côté du thérapeute vers son patient.
Et merci beaucoup pour tous ces conseils. J'ai la question de la fin qui est importante. C'est une baguette magique. Qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale ?
Alors, dans la santé mentale, alors, moi, je dirais dans le soin tout court, si je peux me permettre de dévier la question, parce que ça touche tous les soignants et tout le monde. Là, j'ai prêché pour ma paroisse. C'est une chose qui entraîne une autre, c'est que, en fait, la valeur du soin, la valeur du travail technique des soignants soit plus reconnue. Parce que ça, c'est quelque chose qui manque cruellement et ça a des implications, on va dire, indirectes qui font que manque de soignants. Il y a un problème d'attractivité. Là, je vais pas faire le... C'est même pas syndicaliste, en fait, ce que je dis. C'est des faits réels. C'est qu'il y a un problème d'attractivité, il manque de soignants. L'idée de trouver un autre psychiatre, ça me permet de faire le lien. Oui, mais encore faut-il qu'il y en ait un autre. C'est ça. Et vu la difficulté d'avoir des rendez-vous, justement, tu parlais d'alliance, les gens vont avoir parfois peur de dire les choses qui ne vont pas, parce que justement, la conséquence de la rupture de soins avec ce thérapeute va être de ne pas retrouver d'autres thérapeutes. Donc, on tombe dans un « c'est mieux que rien ». Et ça, moi, je pense que c'est dommage et que c'est un vrai problème qu'on soit dans « c'est du mieux que rien ». Donc, je pense que si j'avais une baguette magique, faire prendre conscience à tous les gens qui dirigent, mais je sais que certains en ont conscience, que même à la population générale, en fait, que la valeur, en fait, du soignant est bien réelle, l'acte technique, surtout en santé mentale, est bien réel. On pourrait parler en termes économiques, mais c'est inchiffrable, on pourrait débattre des années, mais moi, je pense que l'impact sur le PIB, si là, je fais mon économiste, est important, parce que vous permettez à des gens d'être maintenus dans un système qui leur convient et qui apporte du service aux autres par leur métier, parce qu'en permettant aux gens de travailler, vous permettez à la civilisation de tourner, en fait, au pays de tourner. Et ça, cette valeur, elle n'est pas pricée. Alors, si tant est-ce qu'elle est priceable, c'est difficile, hein, parce que c'est des coûts indirects, mais de faire prendre conscience aux gens que ce bénéfice, donc de coût, oui, la santé a un coût, mais c'est plus un bénéfice, au final, au niveau de la population. Hein. Simplement, une population en meilleure santé, une population qui va mieux faire tourner le pays, donc tout le monde est gagnant. Que ce soit à l'échelle micro, c'est-à-dire autour de vous, qu'à l'échelle macro pour l'ensemble du pays. Donc ouais, c'est ça que je changerais. C'est vraiment cette perception qu'on peut avoir du soin pour justement recréer de l'attractivité.
C'est essentiel, et surtout en France aujourd'hui, on le voit bien hein, dans les salaires, dans la santé mentale, c'est moins important que sur d'autres professions de santé. Et même quand je vois par rapport aux études, ce que peuvent gagner les certains professionnels, des fois, c'est le jeu. Et il y a une théorie économique que j'aime beaucoup, c'est le concept de l'impôt négatif. Qui n'ont pas vraiment été testés, c'est de dire en fait on arrête de faire une imposition qui soit la même hausse et en fonction de la valeur qui est créée, on va imposer, je ne sais pas, à 60% certains et d'autres on va les imposer à moins 30%.
Mais justement, la création de valeur, justement, c'est des débats très compliqués avec les théories économiques derrière, mais même des théories anthropologiques hein, de l'être humain, donc c'est... Je ne suis pas expert là-dedans, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur ça. Et l'idée, c'est facile là, comme on en parle, mais l'idée, c'est aussi de choisir un modèle qui est le moins néfaste pour tous. C'est aussi ça, et ça, c'est à l'échelle d'une population de plusieurs millions, on ne maîtrise pas. Hein. C'est pour ça que c'est difficile. Hein. Ces gens-là sont dans des positions quand on décide du système de rémunération d'un corps de métier, ou même, comme tu dis, peut-être d'une imposition différente. C'est très, très, très difficile. D'anticiper les conséquences de ces choix-là qui sont faits. Donc, c'est pas un métier facile. Donc, et quand même faire prendre conscience qu'il y a quand même une valeur ajoutée qui est importante, qui permettrait d'augmenter les rémunérations, si tant est-ce que ce soit possible. Et ça, Et ça, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas assez reconnu, en tout cas sur le plan financier. Et ça, tous les soignants sont d'accord. Enfin, tous les soignants généralisent, mais la très, très grande majorité des soignants sont d'accord avec ça par rapport, comme tu dis, aux responsabilités. Et justement, ça crée un problème d'attractivité qui est réel. Parce que pas mal de médecins déconseillent à leur enfant de faire médecine de par ce problème-là. Ou même, on parlait des médecins, infirmiers, c'est pareil. Il y a un article qui est sorti récemment, que je vais bientôt publier sur LinkedIn, hein, pour alerter, c'est qu'une infirmière sur deux, au bout de 10 ans, a quitté l'hôpital. Et la médiane de survie d'une infirmière, c'est 5 ans. Donc dans le métier. Hein. Donc là, c'est même pas à quitter l'hôpital, c'est dans le métier. Donc c'est encore... Là, on parle vraiment des infirmières hospitalières. Une infirmière sur deux a quitté l'hôpital, mais la médiane de survie d'une infirmière dans la profession aujourd'hui, c'est 5 ans.
C'est un vrai sujet et j'espère que ta baguette magique fonctionnera. Mais ce qui est bien, c'est que tu mets en place des choses. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ta démarche, c'est que tu vois un problème et tu as ce côté entrepreneur qui est de mon petit bout de chemin et je vais avancer à ma manière pour justement résoudre ce problème. C'est ça qui est beau et je pense qu'on est tous concernés et on est tous capables, de, que ce soit vous, que ce soit nous, de mettre notre petite pierre à l'édifice. Merci Fabrice, c'était vraiment un plaisir. J'ai beaucoup pour ma part.
Pareil, plaisir partagé. Ouais.
Et je te laisse le mot de la fin, si tu veux ajouter quelque chose.
Continue de faire ce que tu fais, parce que c'est très précieux d'avoir un centre de ressources, d'avoir une centralisation des ressources pour cette pathologie-là. Pour d'autres, mais pour cette pathologie-là en particulier, très précieux, vraiment. Continue de l'enrichir, notamment sur le Notion, en donnant le plus de ressources possible pour les gens. Et puis pourquoi pas un jour un annuaire de tous les centres permettre d'aider les proches aidants.
Et c'est noté, je me souviens déjà, Madjoudou. Merci beaucoup encore, Fabrice. Et puis je te souhaite une très belle journée. Et à bientôt, au revoir à toutes et à tous.
Salut, bye.
Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopestage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.